relisons le texte sur lequel nous nous sommes penchés en dernier lieu en fin de matinée, acte 9, versets 26 à 28. Acte 9, 26 à 28. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché ouvertement, hardiment, au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 15, quelques versets, les versets 5 à 7, auxquels je faisais allusion aussi en fin de matinée, Romains 15, 5 à 7. Que le Dieu de la persévérance, de la constance, de la ténacité et de la consolation ou de l'encouragement, nous retrouvons là le mot clé de notre journée, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres ou de vivre en bon accueil, en bon accord, pardon, les uns avec les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, ou faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et puis un verset dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 50, Ésaïe 50, texte messianique, mais qui s'adresse aussi au-delà de chacun d'entre nous, Ésaïe 50, verset 4, le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée, littéralement la langue des disciples, pour que je sache soutenir ou relever par la parole celui qui est abattu. La version du rabbinat français traduira « pour que je sache relever par la parole les cœurs découragés ». Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Nous considérons donc Barnabas dans le service, le beau service de l'encouragement. Nous le considérons comme constructeur de ponts. Et nous avons vu que ce pont qu'il bâtit par-dessus le fossé de la peur, il ne le bâtit pas n'importe comment. Tout d'abord, Barnabas va à la source. Il va à la source pour s'informer, pour se faire une opinion personnelle solide. Et il se refuse à ces attitudes faciles construites uniquement sur les « j'ai entendu dire que ». Importance donc de vérifier les bruits qui courent, de ne pas bâtir son jugement simplement sur les impressions des autres, sur ce qui se raconte, bien sûr, là où il est nécessaire de savoir. Et pourquoi cela? Eh bien, tout d'abord parce que, et ce n'est pas rien, parce que nous avons un Dieu qui, curieusement, vérifie les bruits qui courent. Et c'est assez curieux, c'est assez bizarre, puisque nous avons un Dieu qui sait tout, qui vit en dehors du temps, dont la Bible nous dit de la manière la plus claire qu'il n'a pas besoin d'information. Je pense à cette remarque de Job 34, dans les versets 21 à 25, Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort où puisse se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information. Il en met d'autres à leur place car il connaît leurs œuvres. Ce Dieu qui n'a pas besoin d'information, pourtant, curieusement, sait vérifier les bruits qui courent. Nous en avons un certain nombre d'exemples dans les Écritures, je ne veux en prendre que deux. Le premier, dans Genèse au chapitre 11, dans le cadre de la construction de cette tour de Babel, au verset 5, il nous est dit que l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. L'Éternel descendit. Dans Genèse, au chapitre 18, un peu plus loin, à partir du verset 17, nous avons un entretien assez bouleversant entre Abraham et l'Éternel. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, littéralement, je l'ai connu, c'est un terme qui est extraordinaire, je l'ai connu, je l'ai aimé. Le révolutionnaire en matière de traduction, qui va d'ailleurs beaucoup trop loin, Chouraki dira, je l'ai pénétré, sens le plus littéral du terme. Je l'ai pénétré, je l'ai aimé, je me suis intéressé à lui, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri ou la clameur contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Je verrai s'ils ont agi entièrement selon la clameur venue jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. C'est paradoxal. Hein? Ce Dieu qui s'informe, lui qui n'a pas besoin d'information, qui vérifie dans certaines situations les bruits qui courent, qui descendent. Non que la Bible soit un tissu de mensonges et de contradictions à l'endroit de l'attitude de Dieu, mais simplement parce que Dieu se veut bon pédagogue. Et Dieu, en bon pédagogue, veut nous montrer que si lui qui sait toutes choses, qui pénètre les desseins des cœurs avant même que ceux-ci ne se produisent, ne se traduisent dans la réalité, dans les faits, si lui vérifie, lui qui sait tout, à combien plus forte raison nous qui savons si peu de choses, nous qui sommes si limités, si vulnérables, nous avons besoin de nous informer à la source pour faire des évaluations justes. C'est parce que Dieu se met à notre portée et parce qu'il veut en quelque sorte nous ouvrir un chemin dans ce domaine. Il veut être pour nous modèle et moteur à la fois dans ce domaine qu'il nous est présenté comme celui qui sait vérifier, tout comme nous dans l'éducation de nos enfants. Il est des choses que nous savons. Et sans avoir un seul instant l'envie de mentir à nos enfants, parce que nous voulons être des pédagogues à leur endroit, nous nous plaçons dans une position différente, nous jouons une sorte de jeu pédagogique, parce qu'ils doivent apprendre au travers de leurs parents. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est aussi qu'il faut aller à la source, parce que le Seigneur Jésus lui-même ne prononce pas sur un oui-dire. C'est ce que nous disent les Écritures dans cet autre passage messianique d'Ésaïe chapitre 11, verset 3, après qu'il soit question de l'onction parfaite en plénitude absolue de l'Esprit sur la personne de Christ, il nous est dit au verset 3 qu'il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera pas sur un oui-dire, heureusement. Troisième raison, à cause de textes éloquents à ce sujet, déjà dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 13, versets 12 à 15. Deutéronome 13, 12 à 15. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi, ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas. Quel luxe de précaution! Reprise d'ailleurs quelques chapitres plus loin, chapitre 17, versets 2 à 4. Quel luxe de précaution à prendre en vue d'un jugement juste. Et aussi, quatrièmement, parce que Dieu ne veut pas que nous devenions à notre tour des propagateurs de faux bruits. Parce que le problème, c'est que quand nous n'allons pas à la source, là où cela est nécessaire, nous sommes aussi de ceux qui, pourtant, bien que nous sachions que nous n'avons pas une information juste et objective, nous sommes quand même de ceux qui colportent, qui partagent plus loin. Or, dans les Écritures, de manière très claire, déjà en Exode 23, verset 1er, il est dit « Tu ne colporteras pas de faux bruits ». Donc nous pouvons être ceux qui mettent l'huile sur le feu, ou nous pouvons nous inscrire dans ceux dont la vocation est d'être des coupe-feux, précisément dans la mesure où nous prenons certaines précautions en vue d'une bonne communication. Alors il y a dans les Écritures des chapitres entiers qui sont centrés sur la communication. La Bible est le livre par excellence de la communication. Tout simplement parce que Dieu est le communicateur parfait. Il est allé d'ailleurs très loin dans la communication, notre Dieu. Il voulait avoir une telle certitude que nous ayons une vision juste de son identité, de sa pensée, de ses intentions, de son plan éternel en notre faveur. Il est allé très loin, n'est-ce pas, puisqu'il est allé jusque dans l'incarnation. Quelle communication! Jésus-Christ, là encore, nous rejoignons notre étude de ce matin, c'est aussi le Dieu amour dans un corps. Pour que nous puissions vraiment entrer en relation étroite avec notre Dieu. Alors, prenons simplement et rapidement quelques exemples des problèmes de communication dans les Écritures. Nombre chapitre 22, par exemple. Nombre chapitre 22. Quelques échantillons simplement, nous sommes ici au début de l'histoire du prophète malgré lui, de ce voyant aveugle qui est Balaam, et qui donc reçoit cette délégation d'éminence envoyée par le roi Balak, et qui sollicite de sa part une malédiction prononcée sur Israël aux portes du pays promis. Et je dis au verset 9 que Dieu vint à Balaam et dit « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Et Balaam, manifestement, est déçu. Très déçu. C'est un message qu'il ne lui plaît pas de communiquer à ses personnalités. Et parce que le message ne lui convient pas, parce qu'il n'arrange pas ses affaires, il nous est dit au verset 13 qu'au matin, une fois levé, il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Quelle déformation! Quel raccourci facile! Le raccourci du dépit. Le raccourci de la déception, qui engendre une autre déception. Parce que ces émissaires, ces princes de Moab, ils ne sont pas fiers de devoir retourner vers la cour de leur souverain pour lui transmettre un tel message. Ça ne va pas non plus arranger leurs affaires. Et parce qu'ils sont déçus, lorsqu'ils arrivent à la cour, verset 14, il retourne auprès de Balak et dire « Balaam a refusé de venir avec nous. » Vous avez vu comme le message de Dieu a réduit à la cuisson de la déception. Il est devenu de plus en plus petit. Ce sont nos mécanismes. C'est comme cela que nous réagissons quand nous sommes déçus, quand nous sommes dépités, quand un message ne nous convient pas. Ah, si je vous disais cet après-midi, étant un quelconque Crésus ou je ne sais quel autre Rockefeller, que quiconque viendra me voir demain matin à telle heure recevra de ma part 152 500 dollars, Et si vous veniez frapper à ma porte demain matin et que je ne vous donne que 152 000 dollars, vous vous souviendrez de l'exactitude du nombre que je vous donne aujourd'hui. Parce que là, ça vous arrange. C'est fou ce que nous sommes capables d'être précis dans nos communications quand nos communications nous arrangent. Et c'est fou ce que nous devenons élastiques à quelque part, en fonction de notre humeur du moment face à ce qui nous est communiqué. Déformation déjà au deuxième degré, voyez. Nous pourrions prendre un autre exemple dans le premier livre des Rois, au chapitre 21, l'histoire de la vigne de Naboth et de la conduite scandaleuse, criminelle, de Jézabel et d'Akab. 1 Rois 21, vous connaissez l'histoire. Akab, verset 2, parla ainsi à Naboth, « Cède-moi la vigne pour ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison et je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Oh, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères !» Quelle attitude juste, biblique d'ailleurs. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de la parole que lui avait dite Naboth de Jizréel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Il devient bouddhiste. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Mais pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Remarquez la fidélité d'Akab au message qu'il a communiqué à Naboth. Il le répète intégralement. Il n'a pas un seul instant perdu la mémoire en ce qui concerne sa propre démarche. Mais par contre, qu'est-ce qu'il ajoute ? Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. C'est tout ce qu'il a retenu. Vous avez vu le décalage entre la position fidèle, conforme aux Écritures, la précision pleine de courtoisie. Je ne pense pas que Naboth ait envoyé cela à la figure du roi comme cela. Il voulait simplement être fidèle à son Dieu, à sa parole concernant cette question des propriétés qu'on ne pouvait pas céder à n'importe qui. Mais là, c'est fini. Il y a quelque chose qui se passe dans la tête d'Akab qui n'est plus capable de la moindre fidélité dans la transmission, dans la communication plus loin du message qu'il a reçu de la part de Naboth. Nous aurions pu prendre, et je vous les cite simplement, 1 Samuel 22, ou déjà 1 Samuel 10, 1, verset 10 à 16, Josué 22, 10 à 12, une guerre civile évitée de justesse, tout simplement parce qu'au départ se trouve une mauvaise interprétation d'un acte de fidélité à l'Éternel. Et tout cela a manqué, mais à un cheveu près, de dégénérer en bain de sang, en guerre civile. Et il a fallu qu'à un moment donné, quelqu'un ait la sagesse de dire, mais écoutez, si vous aviez simplement regardé, est-ce que cet autel a la forme qu'ont les autels habituels? Ou bien est-ce que c'est un mémorial, simplement? Non, on n'avait pas fait attention. Vous pourriez prendre Néhémie 6, versets 5 à 9, 1 Chronique 19, mais allons plus loin, Marc 14, verset 58, Marc 14, verset 58, dans cette recherche de témoignages destinés à condamner le Seigneur Jésus, il nous a dit au verset 57, « Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en trois jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Je détruirai ce temple. Or, nous savons fort bien que dans d'autres textes, Jean 2, 19 à 21 en particulier, Jésus ne dit pas du tout ça. Détruisez ce temple. Détruisez ce temple, vous. C'est de vous qu'il s'agit. Et je le relèverai en trois jours. Détruisez. Ce qui est une réminiscence de l'Ancienne Alliance, d'un texte du livre de Daniel au chapitre 9 et au verset 26 déjà, où nous avons ce genre de précision. Et pourtant, il y a une telle crispation autour de ce véritable fétiche qu'est le temple de Jérusalem. Cette espèce de sainte prison dans laquelle on peut enfermer Dieu à double tour pour en garder l'exclusivité mondiale, n'est-ce pas? Et il y a une telle crispation que, d'ailleurs, ce faux bruit va continuer puisqu'il va être repris au chapitre 15, verset 29. Jésus est suspendu sur la croix entre ciel et terre. Les passants l'injurient, secouent la tête en disant « Hé, toi, qui détruis le temple et qui le rebâtit en trois jours ?» Vous voyez que les faux bruits ont la vie dure. Et ces faux bruits que nous retrouvons plus tard encore dans Actes 6, au verset 14, dans le procès fait à ce premier martyr de l'Église de Jésus-Christ, Étienne, Actes 6, verset 14, où il le dit à partir du verset 13, ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes comme il nous a donné. » Vous voyez ? Pourtant, du temps s'est écoulé. Mais cette idée fausse, volontairement entretenue, reste là, solide comme le roc. Oui, c'est vrai. Les idées fausses, les bruits qui courent, les faux bruits ont la vie dure. Si nous allons dans la conclusion de l'évangile selon Jean, c'est à peine croyable qu'un évangile qui soit qui est d'une telle profondeur, se termine pratiquement par l'évocation d'un faux bruit, d'un problème de communication. Jean 21, verset 20, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Et là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Voilà ce qui courait dans les salons évangéliques de Jérusalem. Mais cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Voyez, comme Dieu a tenu, même dans le cadre de textes extrêmement profonds, à ajouter ce piment du problème de la communication, de l'interprétation des propos, des extrapolations si faciles. Nous pourrions aller dans Actes 21, versets 20 à 23, Actes 21, versets 20 à 23, ou versets 27 à 29, plutôt, 27 à 29, à la fin des sept jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Hommes israélites, au secours ! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde, contre le peuple, contre la loi, contre ce lieu. » Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu, car ils avaient vu Auparaphant, Trophime, Béphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Ils croyaient que... N'empêche que Paul a manqué d'y laisser sa peau. Il y a eu un quasi-lynchage. Et ce n'est que la volonté de Dieu qui, heureusement, s'est manifestée dans cette protection de dernière minute de Paul, de manière à ce qu'il puisse être ensuite témoin, notamment à Rome. Ah, ces interprétations tendancieuses se traduisant en conséquences graves, en calomnies, ces déductions trop rapides que nous faisons. Les pièges de la communication. Les pièges de la communication. Je ne sais si vous avez entendu le texte d'une chanson de ce chanteur français Yves Duteil, qui a beaucoup à apporter dans certains domaines à l'Église de Jésus-Christ. Même s'il ne connaît pas Jésus-Christ lui-même, il dit des choses justes. Et j'ai eu de sa part l'autorisation de citer le texte que je vais vous lire dans mon dernier livre sur Barnabas, il y a un copyright. Voici le contenu de ce texte, de cette chanson. La rumeur ouvre ses ailes. Elle s'envole à travers nous. C'est une fausse nouvelle, mais si belle après tout. Elle se propage à voix basse, à la messe et à midi, entre l'église et les glaces, entre confesse et confiture, fruits confits. La rumeur a des antennes, elle se nourrit de cancan, elle est bavarde et hautaine et grandit avec le temps. C'est un arbre sans racines, à la sève de venin, avec des feuilles d'épines et des pommes à pépins. Ça occupe, ça converse, ça nourrit la controverse, ça pimente les passions, le sel des conversations. La rumeur est un microbe qui se transmet par la voix, se déguise sous la robe de la vertu d'autrefois. La parole était d'argent, mais la rumeur est de plomb. Elle s'écroule, elle s'étend, elle s'étale, elle se répand. C'est du miel, c'est du ciel. On la croit tomber du ciel. Jamais nul ne saura qui la lance et qui la croit. C'est bien plus fort qu'un mensonge, ça grossit comme une éponge. Plus c'est faux, plus c'est vrai. Plus c'est gros, plus ça plaît. Calomnie, plus on nie, plus elle enfle et se réjouit. Démentir, protester, c'est encore la propager. Elle peut tuer sans raison, sans coupable et sans prison, sans procès ni procession, sans fusil ni munitions. C'est une arme redoutable, implacable, impalpable, adversaire invulnérable. C'est du vent, c'est du sable. Elle rôde autour de la table, nous amuse ou nous accable. C'est selon qu'il s'agit de quiconque ou d'un ami. Un jour, elle a disparu, tout d'un coup dans les rues, comme elle était apparue à tous ceux qui l'avaient cru. La rumeur qui s'est tue ne reviendra jamais plus. Dans un cœur, la rancœur ne s'en ira pas non plus. Et je crois que nous devons nous humilier. Nous devons nous humilier... Je dirais du manque de consécration de notre langue, de cette propension, de cette facilité avec laquelle nous parlons à tort et à travers. Oh, nous pourrions évoquer tant de pièges dans la compréhension des mots, toute la question du vocabulaire et de la culture. Je pense à cet homme, ce Français, qui travaillait depuis 2 ans dans une filiale d'une maison d'importation japonaise et qui, au bout de 2 ans de travail dans ce cadre, estimait avoir maîtrisé l'obstacle du langage. Et un jour, après une discussion avec le chef comptable japonais, il conclut cette discussion en disant « Il semble que nous ayons des vues parallèles sur ce sujet. » Et l'autre d'acquiescer. Le Français est très surpris, 15 jours plus tard, d'entendre ce chef comptable japonais soulever exactement le même problème. Elle lui dit « Mais nous avions pourtant dit que nos vues étaient parallèles. » Et le comptable japonais d'être très étonné de lui rétorquer « Oui, mais parallèle signifie que nous ne nous rencontrerons jamais. » Et oui, les mots n'ont pas le même sens, et vous le savez, c'est mon problème quand je viens au Québec. C'est que nous parlons français. Et que pourtant, dans la langue française, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a une culture, parce qu'il y a un environnement, parce qu'il y a des milliers de kilomètres faits d'océans qui nous séparent, eh bien, il y a des décalages entre le français des uns et des autres. Et ça se comprend, puisque entre le français français et le français suisse romain et le français belge, il y a déjà tant de différences. Et ça nous joue des tours. Regardez la subtilité. Contrôleur dans une grande banque, je dînais un soir avec mon chef de service. Au cours du repas, il me parla du contrôle des espèces en finance auquel nous devions procéder le lendemain matin. Il me dit « On commencera par s'attaquer aux caissiers, ensuite on fera les coffres. » Le lendemain matin, en arrivant à la banque, nous fûmes embarqués par la police. Nous apprîmes plus tard qu'un inspecteur avait dîné la veille au même restaurant que nous. Même au Québec, on comprend cette finesse. Hein? L'une de mes amies était caissière dans un supermarché. Un jour, sa caisse montre des signes de défaillance. Elle se tourne alors vers l'une de ses collègues et lui lance, en désignant un client qui attendait son tour, « Annie, tu peux taper le monsieur? Je ne peux plus l'encaisser. » Bien compris, hein? Ben, vous imaginez que ce monsieur comprenne très mal la langue française. Il se serait senti très mal dans sa peau, hein? Oh, je pense au risque du téléphone. À la suite d'un décès, une dame appelle les pompes funèbres et commande une couronne mortuaire parce qu'elle désire honorer une amie d'enfance. Et elle prépare un texte à inscrire sur un ruban qui sera fixé sur la couronne. Et elle dit à la téléphoniste, qui est une néophyte, qui n'a pas l'habitude, « Madame ou mademoiselle, vous inscrirez « repose en paix » sur les deux côtés, puis vous ajouterez encore « au revoir au ciel » s'il y a encore de la place. Et le jour de l'enterrement, la dame va chercher la couronne de son amie et elle découvre l'inscription suivante « repose en paix sur les deux côtés, au revoir au ciel s'il y a encore de la place ». Eh oui. Eh oui. Les pièges de la communication. Voyez, tous ces exemples, il y en a bien d'autres, mettent en évidence l'importance dans nos vies, et Dieu me le dit, d'une langue soumise au Saint-Esprit. D'une langue consacrée, offrez vos corps en sacrifice vivant, c'est offrez vos langues. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18-21. Un auteur français qui a beaucoup souffert et qui nous a livré quelques livres remarquables durant ces 15 dernières années, Martin Gray, de dire dans un de ses livres « Les mots et la parole ont une force insoupçonnée. Ils sont la tourmente ou la brise, la pluie qui dévaste ou l'eau qui irrigue. Allez à la source. Si nous voulons être des hommes et des femmes d'encouragement des bâtisseurs de ponts. Deuxièmement, deuxième enseignement, cet enseignement ne concerne pas la langue, mais concerne le regard. Et en particulier notre regard intérieur, mais qui bien sûr s'exprime dans notre regard physique. Bâtir des ponts et de vrais ponts, c'est dire non à ce que j'appellerais la sclérose du regard. La sclérose du regard. Sclérose, c'est un terme grec, francisé, que nous trouvons à diverses reprises dans les Écritures, qui veut dire dur, rigidité, sécheresse. Il est question de sclérocardia dans les Écritures, la dureté de cœur. Il est question de raideur de la nuque. L'un des termes rendus par endurcir fait partie de cette famille. Pourquoi dire ceci? C'est parce que nous l'avons constaté ce matin. Pratiquement 3 ans après sa rencontre bouleversante avec le Christ glorifié, Saul était repoussé de l'église de Jérusalem à cause de son passé. Bien sûr, ne nous inscrivons pas dans la cohorte de ceux qui font preuve d'esprit de critique, de jugement. Parce que nous avons l'avantage d'avoir l'ensemble des textes, n'est-ce pas? Nous n'avons pas à faire le même type de découverte que ces croyants de l'Église de Jérusalem. Mais quand même, ces textes nous ont été donnés pour nous montrer les dangers que nous courons dans nos relations les uns avec les autres. Et le drame de l'Église de Jérusalem, et qui faisait bloc à cet égard, le drame de cette Église, c'est que son jugement collectif était figé dans le passé. Et vous le savez, combien nous sommes tentés de juger les autres une fois pour toutes. Ceux en particulier qui nous ont fait souffrir. Et je suis persuadé qu'en vous disant cela, simplement le fait d'entendre ces paroles fait remonter dans votre mémoire des visages, des attitudes, des voix, des gestes, dont vous n'êtes pas guéri. Parce que, sur le chemin de la vie, vous avez rencontré à un moment donné des hommes et femmes que vous avez peut-être profondément aimés et qui vous ont à un moment donné terriblement marqué par certaines formes de cruauté qui ont été dures. Et ça vous a tellement étonné venant de ces personnes. Et ça s'est passé parfois il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans en arrière. Et si quelqu'un a le malheur de prononcer le mot tel de ces personnes, dont la cruauté passée vous fouette encore aujourd'hui la vie, cela vous fait sortir de vos gonds. C'est insupportable. Cela rouvre des blessures. Parce qu'en réalité, ce n'est pas guéri. Il y a du pu à quelque part. Et en permanence, même le temps passant,
vous continuez à avoir ce regard figé sur un passé, comme si ni vous, ni ces personnes n'avaient évolué, n'avaient changé à quelque part. Vous ne les avez pas revus. Vous avez entendu parler, peut-être même y a-t-il eu un immense silence, et ça ne fait rien. Elles ont été jugées à un moment donné de leur existence, une fois pour toutes, un point c'est tout. Et ce que nous disons dans ce sens-là, nous pouvons le retourner dans l'autre sens, n'est-ce pas? D'autres réagissent ainsi à notre endroit. Parce qu'à un moment donné de notre existence, dans notre relation avec eux, nous avons été durs, nous avons été cruels, nous avons été maladroits, nous avons été discourtois. Et depuis, nous sommes catalogués. Et ce qui est valable au plan négatif que nous venons de développer est tout aussi valable au plan positif. Nous avons tous croisé sur notre route, et béni soit Dieu pour cela, des hommes et des femmes, des événements, des personnes, des ouvrages qui ont marqué un tournant dans notre vie. Dieu s'est servi de ces personnes pour que nous rencontrions son Fils Jésus-Christ. Nous avons connu cette expérience unique qu'est la régénération. Notre vie a été bouleversée. Ou bien, à un moment stratégique de notre existence en tant que disciples de Christ, alors que nous avions des choix extrêmement importants à faire, Dieu a placé sur notre route ces personnes ou tel ouvrage. Et en quelque sorte, au plan humain, nous avons une immense dette de reconnaissance à l'endroit de ces personnes. Et puis, voilà que, des années plus tard, à un tournant de notre histoire, quelqu'un, avec gentillesse, sans esprit destructeur, de dénigrement, mais simplement avec le souci peut-être de nous aider à rester lucides, à rester d'abord attachés à notre Dieu, va oser nous dire, parce qu'il le sait, et parce qu'il faut qu'il nous rende ce service, que telle ou telle de ces personnes a mal évolué, a dérapé, a dévié. Et qui sait si ça peut faire mal, hein? Je pense à un certain nombre d'ouvrages dont Dieu s'est servi pour me bénir, pour me visiter. Et je découvre maintenant, avec le temps et par des sources sûres, que les auteurs de ces ouvrages ont dérapé à quelque part. Et parfois, dans des domaines qui ne sont pas secondaires. Comment est-ce que nous réagissons à ce moment-là? Il est de ceux qui ont aussi un regard figé dans le passé, un regard très positif, sur ce qui est devenu une sorte d'idole dans leur vie. Alors malheur à qui oserait se poser, même modérément, en iconoclaste, n'est-ce pas? Malheur à celui qui fait le plus petit geste d'envoyer une pierre sur cette belle façade. Alors, on s'en prend à lui, n'est-ce pas? Comment oses-tu dire de telles choses? Et vous savez, cela existe non seulement au plan individuel, mais ça existe au plan national, international. Il est des leaders évangéliques connus dans le monde entier, dont nous ne voulons pas un seul instant accepter, parce que Dieu les a utilisés pour bénir l'Église et pour vraiment travailler dans le monde, nous ne pouvons pas accepter qu'à quelque part ils aient pu déraper. C'est-à-dire que nous avons deux poids et deux mesures. Quand il s'agit d'un humble petit membre de notre église locale, alors là, nous sommes prêts à utiliser la guillotine, le couperet, la pendaison et tout ce que vous voulez. Mais si c'est un grand leader international, mais jamais c'est possible. Mais mes amis, qui nous autorise à faire de telles différences? Sommes-nous justes? Bref, ce que j'aime chez Barnabas, c'est que il ne juge pas les autres une fois pour toutes. C'est l'humoriste américain que vous connaissez, Mark Twain, qui l'a dit à sa manière: de tous les hommes que je connais, le seul intelligent, c'est mon tailleur. Chaque fois que je vais chez lui, il reprend mes mesures. Quant aux autres, ils m'ont mesuré une fois pour toutes et se figurent que leur jugement est toujours à ma taille. Permettez qu'avant l'arrêt, nous utilisions encore une petite illustration. J'imagine une rencontre du conseil de telle association, de tel groupement ici au Québec, qui désire inviter un orateur d'outre-mer. Les amis se rencontrent et disent: qui pourrions-nous inviter? Alors on discute, et finalement l'un des membres de cette auguste équipe d'avoir un immense sourire et de dire: écoutez, moi je vous suggère que nous invitions Maurice Deckel. Ah. D'autres, en entendant ce terme, sont au bord de l'infarctus du myocarde. Non qu'ils soient coupable d'un quelconque crime, mais tout simplement parce qu'on ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam. Qui est ce personnage? Alors, on ne veut pas courir des risques. Quelqu'un m'a dit, bien que ce soit mon cinquième voyage, mais enfin, je le comprends très bien, qu'on avait pris d'immenses précautions avant de m'inviter, non pas ici, mais dans un autre cadre. Et j'en suis reconnaissant, et j'ai envoyé mon curriculum vitae, comme on dit. Alors les autres froncent les sourcils, lui disent: écoute, on t'aime bien, on te fait confiance, mais quand même, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qui est ce Maurice Deckel, pour que nous puissions réfléchir, prier, et peut-être nous rallier à ta proposition? Alors le cher ami en question réfléchit quelques moments, se dit: mais comment est-ce que je pourrais faire pour les convaincre? Et subitement une idée, mais absolument géniale, fleurit dans son cerveau. Et il sort son portefeuille et dit: écoutez, ça tombe très bien parce que comme Maurice Deckel est un ami de longue date, nous avons vécu tant et tant de choses ensemble, j'ai dans mon portefeuille une photo. Quelques photos de ceux que j'aime, tout spécialement. Il y a mon épouse, il y a nos enfants, et puis il y a Maurice Deckel. Alors on va faire le tour, hein, on va passer la photo, et puis vous allez voir. Ça peut quand même déjà vous aider. S'il n'a pas un air rébarbatif, là, d'un brigand, hein, le couteau entre les dents, vous saurez que peut-être on pourrait l'inviter. Quand je vous ai dit que vous aviez eu raison de vous mettre au premier rang, hein? La prochaine fois, vous viendrez devant, hein. Chère sœur, pouvez-vous vous approcher pour faire une lecture publique de la légende figurant au bas de cette photo? J'ai 9 mois. S'il vous plaît, ne partez pas. J'ai juste une question à vous poser. Est-ce que ça ressemble à Maurice Deckel? Vous dites non, il y a un point de repère qui évoque une ressemblance évidente avec Maurice Deckel en chair et en os. Vous avez peur de le dire? Dites-le, c'est les oreilles. Merci. Vous savez, ça m'aide beaucoup dans la communication. Bon, écoutez, je pense que nous nous comprenons. Vous ne pensez pas que l'équipe de responsables en question serait très soucieuse de la santé mentale du collègue? Et pourtant, entre nous, soit dit, est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons? Est-ce que nous n'avons pas de telles attitudes qui nous empêchent de bâtir des ponts dans nos relations avec les autres? Je vous laisse avec cette question. Nous allons y revenir dans un moment avant d'envisager la troisième caractéristique des vrais bâtisseurs de ponts. Nous avons un moment d'arrêt.